Accès libre.
Salut tout le monde! Luc Fortin en compagnie de Gaëlle Ouellet, directrice générale, présidente directrice générale du regroupement québécois des maladies orphelines. Madame Ouellet, la semaine fut convenable, agréable?
Très occupée.
Très occupée.
Et très agréable.
Avez-vous le temps quand même de penser à vous?
J'essaie.
OK. À la mise en onde de Rémi Hermoso, qui, lui, est assisté de Jean-Sébastien, qui a un petit peu plus d'expérience que Rémi. On est content de saluer Rémi. Petite mésaventure aujourd'hui, Madame Ouellet. Ben oui, mon rasoir électrique m'a lâché en plein travail. Heureusement, j'avais pas fait la moitié du visage, juste un petit ici, là, juste sur le côté droit. Mais... il a fallu que je pense à mon... Pendant 10 minutes, là, je me disais, mon ego, puis de quoi je vais avoir l'air. Un, parce que je suis pas rasé depuis 3 jours et demi. Deux, parce que j'ai commencé à me raser. Et après ça, j'ai regardé tous ces gens qui, bon, la semaine dernière, on parlait de vitiligo.
Ouais.
Bon, et là, on parlait d'apparence. Aujourd'hui, bon, LRS, Damlos, c'est ça?
Damlos, ouais.
Et je me disais, Fortin, laisse ton ego à maison, là, puis, ouais. Marche,
oui, puis en plus, un, vous êtes à la radio. Moi, je vous vois, ça ne me dérange pas. Puis deux, c'est le fameux Movember.
C'est vrai,
aussi.
C'est vrai. Ouais, donc, c'est vrai. En français, c'est bien. Hein? Ils ont trouvé une nouvelle avec Procure, l'organisme. Ils ont inventé le nœud vendre pour le nœud papillon, ce qui peut-être contrarie un peu moins la conjointe et pique moins rendu au 22 novembre. Alors, il y a le nœud vendre également pour les francophones, si jamais vous avez envie de porter le nœud papillon d'ici le 30 novembre. Donc, oui, on va parler à Véronique, qui, elle, est atteinte du LRS-Danlos. On va également faire notre petit glossaire du handicap. Gaëlle a des choses à nous apprendre sur son association et un centre qui, ma foi, reçoit pas mal d'appels. Vous me disiez même que LRS-Danlos était une des raisons pour lesquelles les gens appelaient le plus souvent chez vous.
Exactement. Ouais. Il y a 7000 maladies rares, c'est celle pour laquelle les gens nous appellent le plus souvent.
OK. Et au bout du fil, Marie Turcotte, qui, elle, est sur le conseil d'administration de la Société de transport de Montréal. Elle est là pour parler transport adapté. Vrai, mais Marie, j'espère que la STM vous a dit que moi, je ne voulais pas parler de transport adapté, mais de transport régulier pour les personnes à mobilité réduite. Est-ce que vous étiez bien informée?
Tout à fait. En fait, au CA de la STM, je représente les usagers du transport adapté, mais on m'a effectivement informé que vous vouliez faire une entrevue sur l'accessibilité du réseau régulier.
Oui, le parcours client au transport régulier... je vous raconte un peu ce qui m'est arrivé. Vous me direz ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Et je tiens à rappeler que vous êtes vous-même handicapé, donc vous êtes, disons, du bon bord. Vous n'êtes pas là pour nous donner la cassette de la société pour bien paraître. Et ça, j'apprécie. Il y a 2 semaines, je suis allé avec une personne tétraplégique, fauteuil électrique, métro Henri Bourassa, direction Côte-Vertu. On a dû attendre 27 minutes, 6 rames de métro avant que monsieur arrive avec la rame qu'on place là à la première porte de la première voiture pour que finalement la personne monte. Le monsieur nous a accompagnés jusqu'à Berry-UQAM avec la dite rampe, ce qui fait qu'il n'y avait plus de rampe au métro Henri Bourassa pour qui veut bien l'utiliser. Et il a fallu ensuite, une fois que nous avions quitté Berry-UQAM, qu'il revienne à Henri Bourassa pour ramener la rampe. Est-ce que tout ça est normal, Marie?
Effectivement, c'est parce que à l'heure actuelle, une personne en fauteuil roulant qui veut prendre le métro, il y a sur la ligne orange, parce que actuellement, c'est que des stations de métro sur la ligne orange qui sont accessibles. Il y a un frein à ça, à l'autonomie, qui consiste à ce que le plancher du quai et le plancher des wagons n'arrivent pas vis-à-vis. Il peut y avoir un décalage de plancher du wagon de 3 pouces, d'un pouce, tout dépendamment du nombre de personnes qui est à bord dans les wagons de métro. Mmh, mmh. Et là, ça d'une part, et d'autre part, est-ce que les planchers des quais, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas égaux, ils pouvaient être ondulés. Donc, ce qui explique cet écart-là, et c'est pour ça que ça prend, il faut faire appel à un gérant de station avec une rampe et qui a une rampe amovible et qui accompagne, qui met la rampe pour que l'embarquement et le débarquement puissent se faire de manière sécuritaire. Puis ça, c'est un frein. Parce qu'effectivement, il faut attendre. Dans votre cas, vous avez attendu 27 minutes, mais moi, le printemps dernier, j'ai attendu Henri Bourassa 45 minutes. Le gérant de station, c'est très long, puis c'est un frein à l'autonomie. Ça, c'est inévitable. Avec les nouveaux wagons, les wagons azur qui s'en viennent, ils vont pouvoir, à la SM, vont pouvoir programmer la hauteur des wagons. Peu importe le nombre de personnes qu'il va y avoir à l'intérieur, ça va toujours rester à la même hauteur. En plus, toutes les stations de métro qui sont munies d'ascenseurs, les quais vont être rehaussés, le quai où est-ce que la première voiture de wagon, pour que les planchers, le plancher du quai et le plancher du wagon arrivent nez à nez, il n'y ait plus cet écart-là de hauteur et la personne va pouvoir prendre les wagons de métro de manière tout à fait autonome. Elle n'aura plus besoin d'attendre après un gérant de station qui l'accompagne avec une rampe amovible.
Est-ce que de prendre la rampe à Henri Bourassa et de l'amener à la station accessible la plus proche, soit Berry-UQAM, c'est la norme? Ça veut dire qu'il n'y a plus de rampe à Henri Bourassa jusqu'à ce que celle-ci soit ramenée.
Effectivement, c'est parce que... Puis là, il y a un travail qui fait qu'on regarde est-ce qu'on pourrait être plus efficace. C'est-à-dire, parce que l'idée, c'est que le gérant de station doit toujours demeurer avec le client. Et là, c'est de pouvoir faire le débarquement rapidement quand le wagon arrive. Hein. Vous savez, ça va très vite. On ne peut pas mettre 15 minutes à descendre. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, ça a été la solution la plus efficace que la SM a trouvée, mais on est toujours à la recherche de solutions pour augmenter l'efficacité. Mais il faut comprendre que ça, c'est vraiment une mesure temporaire.
Mais je suis certain, Marie, que dans vos délibérations, vous connaissant, là, vous avez dit probablement ce qu'on s'est dit nous aussi, à savoir comment se fait-il que l'opérateur du métro ne puisse pas simplement appeler à Berry en disant « Je vais être dans 15 minutes, on a besoin d'une rampe plutôt que de prendre la rampe d'Henri Bourassa. » Et pourquoi n'y a-t-il pas simplement une rampe par quai accessible et par direction? Donc, deux rampes, même trois à Henri Bourassa parce qu'il y a trois quais, trois possibilités, six à Berry-UQAM.
Bien, il y a toutes sortes, il y a toutes sortes de scénarios qui sont étudiés. Comme par exemple, là, c'est les gérants de station qui sont appelés à faire cette tâche-là. Il y a des discussions où on regarde pour que ce soit aussi également d'autres groupes d'employés du métro qui puissent faire aussi cette tâche-là pour diminuer le temps d'attente de l'accompagnateur.
Mais vous me dites qu'au printemps dernier, vous avez attendu 45 minutes. Là, on est en novembre, ça fait six mois. C'est assez évident, même, on m'aurait dit dès le départ, c'est le gérant de la station qui part avec la rampe, que j'aurais dit aux gens, mais voyons, ça n'a pas de bon sens. Il y a quelque chose que je comprends pas là, dans l'évaluation. C'est pour ça que je suis content que vous soyez là pour m'aider à comprendre comment font-ils l'évaluation d'une façon de faire.
Bien, comme j'ai dit, pour le moment, tout ce que je peux dire, c'est que effectivement, il y a des problèmes, puis là, on regarde pour améliorer ça. Puis, entre autres, à un moment donné, c'est comme à Henri Bourassa, à un moment donné, les gérants de station étaient délogés parce qu'il y avait des travaux. Puis là, ils étaient situés dans d'autres stations de métro, ce qui rendait aussi le temps d'attente. Fait qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut regarder, mais cet aspect-là, je peux vous dire qu'il est sérieusement regardé au moment où on se parle pour améliorer le processus parce que c'est pas efficace.
OK. Marie Turcotte, qui est sur le conseil d'administration de la Société de transport de Montréal, elle qui généralement est affiliée ou associée aux discussions entourant le transport adapté. Aujourd'hui, on parle du parcours client du transport régulier pour ses clients à mobilité réduite. Peut-être juste dresser rapidement, Marie, l'agenda en, disons, commençons par, moi j'avais vu novembre, Jean Talon, des prochaines stations d'ici au 375e de Montréal.
Ça veut dire 2017?
Oui.
OK, dans les prochaines, tu s'en viens, tu as Charles-Marc, tu as Jean Talon, Rosemont et Snowdon, qui sont dans les prochaines, qui vont être faites d'ici 2017. Celles qui vont être faites dans les années qui vont suivre, je peux tout de suite vous les nommer, c'est Mont-Royal, Berry-Lignes-Jet, parce qu'actuellement, c'est Berry, Ligne Orange seulement, Place des Arts et Honoré-Beaugrand.
OK.
Donc, déjà, il y a des travaux et ces choix-là de stations, c'est à partir de critères qui ont été, en tout cas, c'est des critères que le média associatif et la STM ont convenu. Et à partir de ces critères-là, il en ressort ces stations. Les stations que je viens de vous nommer.
Ouais, ben on peut comprendre Jean Talon, Snowdon, des points de transfert, Berry-UQAM, là aussi, point de transfert, ligne orange. J'avoue que Rosemont me surprend un peu. J'aurais pensé peut-être plus Université de Montréal ou des endroits où là, il y a un certain trafic d'étudiants. Mais,
parce que au départ, c'était la ligne orange.
Oui, oui.
Les stations sur la ligne orange. L'Université de Montréal, ben là, c'est plus sur la ligne bleue.
Mais une fois que Jean Talon et Snowdon sont faites...
Jean Talon, ça va être uniquement la ligne orange pour le moment.
OK. Okay.
Parce que pour rendre la ligne Jean Talon, ligne bleue accessible, ça va demander d'autres ascenseurs.
Mm-hmm.
Parce que l'idée... Hein, on fait ça pour les gens en mobilité réduite. Quand on rend les stations accessibles, on regarde aussi pour qu'il y ait le moins long déplacement possible.
Ouais.
Enfin, donc, dans cette optique-là, ça nécessite d'implanter des ascenseurs additionnels pour rendre Jean Talon ligne bleue accessible.
Et ça semble simple comme ça de dire, bon, on doit mettre des ascenseurs, mais... Si je prends Ribouassa, il y a trois ascenseurs pour partir de la terre ferme et de se rendre jusqu'au quai avec des déplacements dans une station qui n'était pas conçue à l'origine pour ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut trouver une façon de placer ces ascenseurs-là à côté des murs porteurs et non risquer de défaire des structures. C'est vrai que ça demande quand même une organisation. Est-ce qu'on a des mois pour ce qui est de Champ-de-Mars et Jean Talon?
Champ-de-Mars, là, c'est bientôt. Là. On ne parle pas de mois. Là. On n'est plus dans les mois.
OK, donc dans les semaines.
Jean Talon, c'est à la fin de l'automne.
Okay.
Et Rosemont, les travaux sont amorcés. Snowdon, c'est un très, très, très gros chantier. Mmh. Parce que, oui, il y a les travaux d'accessibilité universelle, mais on profite aussi pour faire d'autres travaux, notamment au niveau de l'électricité. En tout cas, c'est un gros, gros chantier. Et là, je connais pas la date de fin des travaux, là, mais les travaux sont commencés à Snowdon.
OK.
C'est ça. Oui, effectivement, c'est complexe parce que souvent, ça nécessite des agrandissements d'édicules. Donc, l'acquisition de terrain, il faut négocier l'achat des terrains. Puis des fois aussi, c'est très complexe parce que pour dynamiter, tu es dans le roc, pour dynamiter, pour pas que tu brises rien. Puis des fois aussi, comme Henri Bourassa, c'est un bel exemple, pour la rendre accessible, on avait dû fermer la station de métro à la clientèle. Donc, il avait fallu mettre des services de navette, d'autobus navette, et diriger la clientèle, la rabattre sur une autre station de métro. Ouais. Vous comprenez? C'est pas les coûts, là, ça s'additionne très rapidement.
Tout à fait. On parle de millions de dollars. Là.
15 millions en moyenne
avec un S.
Par station, le coût moyen pour rendre une station de métro accessible.
Marie Turcotte, un autre tantôt, on parlera d'autobus. De toute façon, on connaît quand même les problèmes du réseau d'autobus et des difficultés parfois, bon, avec le fonctionnement des rampes et tout, mais au moins on a éclairé quand même un peu le parcours du métro, les raisons et surtout, ben, ceux qui le prennent, à quoi faut s'attendre si vous voulez un métro, vous voulez utiliser le métro, ben, partez au moins une demi-heure avant.
Mais tu sais, quand que généralement, comme à Berry, il y a plus d'agents de gérants de station, donc le touriste va attendre un peu moins longtemps l'accompagnateur pour pouvoir faire ton accompagnement. Mais en tout cas, je termine en disant que j'ai pas de réponse concrète sur les modifications à venir, mais c'est pas parce que j'en ai pas aujourd'hui concrète à vous dire que ça ne se travaille pas éventuellement. Ça me fait plaisir de vous en parler.
Merci Marie Turcotte.
Bye-bye.
Marie qui est membre du conseil d'administration à la STM et également affiliée à Ex-Éco. Petite pause musicale, le temps qu'on ouvre la porte à Véronique Deschênes, à qui l'on cause. Elle est avec... Ouh, on recommence. Elle est avec nous en studio. Bonjour, Véronique Deschênes.
Bonjour.
Comment allez-vous? Calmez-vous, là. Puis, ça, très gentiment, dans le sens qu'elle disait, je suis nerveuse, puis tout. Vous avez l'air super gentille. Et en plus, vous nous parlez aujourd'hui de quelque chose que la plupart d'entre nous, moi inclus, ignorons complètement. Mais, Gail, rappelez-nous là, le nombre d'appels que vous pouvez recevoir à propos de Ehlers-Danlos et les autres maladies, disons, par mois, juste pour nous donner une idée.
Bien, je regarde ça souvent par semaine, là, parce que je sais que c'est une moyenne de 2-3 personnes par semaine qui nous appellent ou nous écrit pour avoir de l'information ou de l'aide pour le syndrome d'Ehlers-Danlos. Et ça, c'est très rare qu'on a autant d'appels pour la même maladie. Ouais, là. Ouais. On a des appels tous les jours, mais comme il y a 7000 maladies rares, c'est souvent des maladies différentes.
Elle sent bon, mais je vous laisse quand même votre invité, puisque vous connaissez Véronique. Vous allez probablement mieux savoir que moi comment tirer profit de sa présence. Mais c'est vrai que vous sentez bonne.
Merci.
Bonjour, Véronique.
Allô.
Alors, le syndrome Ehlers-Danlos, là, juste pour une entrée en matière, dans le milieu médical, on connaît ça avec trois symptômes caractéristiques qui est l'hypermobilité des jointures, l'élasticité de la peau, puis la fragilité des tissus, c'est-à-dire faire des cicatrices facilement là, suite à des traumas ou des chirurgies. Ça, c'est les trois choses qu'on voit dans les livres. Mais c'est beaucoup plus que ça, le syndrome. Puis Je pense bien que Véronique va nous expliquer ça. Mais en premier, je voudrais te demander, toi, c'est une maladie héréditaire. Hein? Fait mm-hmm. que c'est quand on est enfant, ça commence à apparaître. Puis souvent, ça prend du temps à diagnostiquer. Comment ça s'est passé pour toi, ça?
Vraiment. Moi, j'ai eu des premiers symptômes, je dirais, vers l'âge de 8 ans. C'était au niveau des genoux. Les rotules me tournaient de bord. Donc, à ce moment-là, j'ai eu mes premières orthèses aux genoux. Je ne pouvais pas courir, je ne pouvais pas faire de vélo. Ensuite...
Est-ce que ça fait mal?
Est-ce
quand
que ça fait
tourne
mal?
Du mauvais bord, là...
Oui, ça donne un choc.
J'imagine.
Ça
okay.
donne un choc. Okay. Ensuite, vers l'âge de 11 ans, j'ai fait ma première colonoscopie, ma première gastroscopie. J'avais déjà des brûlements d'estomac terribles. C'est resté comme ça. Ensuite de ça, il y a un bout que j'étais plus capable de manger du tout, du tout, du tout, du tout. Les douleurs ont commencé chroniques de la tête aux pieds. Ça a commencé à 14 ans. J'avais des... comment qu'on dit? Moi, je faisais beaucoup de sport. Je faisais de la nage synchronisée, du ballet, tout. Donc là, je développais des tendinites au niveau des aines.
Mais je vous arrête.
Oui.
Comment peut-on faire de la nage synchronisée alors que l'eau offre une résistance aux jambes et que le genou pouvait plier du mauvais côté?
À ce moment-là, le genou avait été renforcé. Okay. J'avais déjà fait un peu de kiné à ce moment-là. Puis en grandissant, ça s'est stabilisé. Mais à cause de toutes les tendinites que j'avais aux jambes et tout, j'ai été obligée d'arrêter les sports. Ces tendinites-là, je les ai encore aujourd'hui. Ils ne sont jamais réparés. Toutes les entorses que j'ai depuis ma jeunesse, je les ai encore. Le manque de collagène fait que ça ne se répare pas. Donc, on m'a dit que j'avais la fibromyalgie, blablabla. Bla, bla. À l'âge de 22 ans, j'avais des décharges électriques au cerveau. On me conduit dans un hôpital. On pensait que j'avais la névralgie d'Arnold ou des trijumeaux. On m'a donné de la cortisone. Ça n'a pas fonctionné. On m'a rentré en médecine interne. Puis, on m'a diagnostiqué la fibromyalgie, sauf que j'avais déjà plus que les 18 points. Donc, ça a resté comme ça un certain temps. J'ai réussi à avoir une grossesse qui a été très, très, très difficile. On ne savait pas pourquoi à ce moment-là.
Est-ce qu'on savait que ce serait difficile sans savoir pourquoi? Est-ce qu'on présumait que ça hypothéquerait le corps?
Pas du tout, parce
non,
qu'à
okay.
ce moment-là, on me considérait fibromyalgique. Mm-hmm. Donc, j'ai eu une grossesse et j'ai été malade du début à la fin. J'ai pas été capable de manger. En fait, je mangeais tout le temps parce que je voulais que ma fille vive. Mais bon, ça a été difficile. J'ai détesté ça, être enceinte. Je savais pas pourquoi, mais je me trouvais un peu... Je trouvais ça difficile. En fait, qu'est-ce qui se passait, c'est que j'avais une autodestruction du poumon qui se passait à l'intérieur au moment même que j'étais enceinte. Ce qui veut dire que les pneumologues ne comprennent même pas pourquoi je suis en vie aujourd'hui, parce que la petite aurait pu peser sur mon cœur ou elle-même aurait pu vraiment comme mourir à travers tout ça. J'étais dilatée à 7 mois.
Ah
ouais. Fallait pas que je bouge. Puis à 8 mois, j'ai accouché.
Puis c'est tout de suite à l'accouchement que le diagnostic a finalement été fait?
Le
ou
diagnostic...
c'est le problème du poumon qui
ouais,
a fait?
Ouais. Là, j'avais 25 ans. À l'âge de 28 ans, j'ai eu un pneumothorax. Puis c'est là qu'on s'est aperçu que j'avais un poumon qui s'était complètement autodétruit. Mmh. Il y avait des trous dedans, il y avait des bulles. Puis c'est là qu'on m'a dirigé en génétique pour voir quel genre de maladie pouvait être liée à un poumon puis un pneumothorax, dont Marfan. J'ai passé les tests pour Marfan, puis j'ai passé les tests pour le type vasculaire du syndrome d'Ehlers-Danlos. Ensuite, on m'a enlevé...
Il y a combien de types?
Oh, je dirais presque 19 avec les mutations.
Ah, oui. Okay.
Ben, pas tout à fait, mais okay. C'est parce qu'avant, on appelait ça, on les numérotait, les types, ça pouvait aller jusqu'à 11, 12. Maintenant, on a réduit ça, mais il y en a quand même au moins 7, 8 là, types.
Okay.
Ouais.
Donc,
mais
vous avez
la
quel
plupart
numéro?
Sont très rares.
Bien, c'est ça. Moi, qu'est-ce qui arrive, c'est que je suis très particulière parce que j'ai un poumon qui a été autodétruit. Présentement, j'ai le foie qui est en train de faire des trous. C'était tout considéré idiopathique, ces maladies-là. Mais bon, on croit tous que c'est avec le manque de collagène que ça se produit. Donc, on ne sait pas vraiment le type. C'est pour ça que moi, présentement, j'essaie de faire des démarches pour aller voir le docteur Amonet à Paris pour savoir quel type, quelle mutation que j'ai. Parce que je suis la seule dans le monde à avoir perdu un poumon dans cette maladie-là puis à se détruire du foie. Donc, je ne le sais pas encore. Je reste un peu encore dans l'errance, malheureusement, même si j'ai reçu le diagnostic.
Est-ce que LR Danlos pose la question de l'espérance de vie? Est-ce que l'espérance de vie est plus courte?
Parce qu'avec
tout ce que vous décrivez, là...
Moi, c'est que ça touche tout mon intérieur, les niveaux des organes et tout. Tout dépendamment des types, c'est pas tous les types que ça va toucher au niveau gastro-intestinaux. Moi, mes intestins, ils fonctionnent plus du tout. Je suis obligée de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour les faire activer. Donc, oui, il y a des risques pour moi, puis pour celles qui ont des troubles à l'intérieur, parce qu'il peut avoir des perforations, il peut avoir des artères qui décident de couper, il peut avoir des anévrismes. Ça peut arriver n'importe quand que ça casse.
Oui, le type le plus sévère, c'est justement le type vasculaire, parce que justement, les vaisseaux puis le cœur est plus atteint. Fait que là, il peut y avoir des morts jeunes, des morts subites, comme dans d'autres types de maladies comme ça. Mais c'est une faible proportion de toutes les personnes qui ont le syndrome Ehlers-Danlos. Puis en général, on peut pas dire que ça atteint, la longévité est affectée, mais c'est sûr que Véronique, elle, c'est un cas plus sévère, plus...
Véronique, décrivez-moi votre apparence, parce que vous avez, cette semaine, envoyé une ou des photos que, bon, je ne voyais pas, et la webmestre m'a posé la question, est-ce que vraiment elle... accepte qu'on mette cette photo-là pour que ce soit rendu public ou elle a juste envoyé les photos pour l'équipe. Alors, sans trop comprendre, j'ai compris qu'il y avait quand même quelque chose qui, visuellement, suscitait cette question-là.
Oui. Donc, vous voulez que je vous décrive physiquement à quoi je ressemble?
Dans le sens...
Par exemple, juste aujourd'hui, tu peux peut-être décrire qu'est-ce que tu as sur toi aujourd'hui.
OK. Généralement, je porte un masque parce qu'il faut que je me protège. Soit un masque juste d'hôpital, mais comme moi, au niveau respiratoire, je suis vraiment, vraiment touchée. J'ai un masque de vélo qui est extrêmement puissant. Donc, il lutte contre la poussière, la cigarette, les vapeurs de véhicules. Je fais beaucoup d'asthme. Maintenant, j'ai des sécrétions qui restent collées depuis 2 mois au niveau des poumons. Puis, j'ai commencé à faire des blocages au niveau respiratoire. Donc, je vais être prise en main bientôt. Pour ça, je vais avoir un percussionnaire. Aujourd'hui,
qu'est-ce qu'un percussionnaire?
Un percussionnaire, c'est pour un peu comme les gens qui ont la tuberculose. Ça fait comme taper, puis ça déloge les sécrétions.
OK. Le fameux clapping qu'on faisait à une certaine époque. Là.
Exactement.
Bon, Véronique, je vous arrête. C'est un bon teaser. C'est certain que les gens vont rester là puis vont revenir parce qu'ils veulent savoir le reste du look. Mais en même temps, on voit que c'est beaucoup plus qu'un look. Là. C'est des obligations, c'est la vie, c'est le quotidien. Il nous reste un petit 7 secondes. On prend une pause puis on vient de l'autre côté.
Vous écoutez Accès libre.
Avec à la régie Rémi et Jean-Sébastien, Gail Ouellet est à ma droite, mon nom est Luc Fortin, et on poursuit cet entretien avec Véronique Deschênes. Tout de suite, vous dire par contre, ceux qui souhaitiez entendre Éric Meunier nous parler de ce glossaire du handicap, j'en ai profité pendant la pause, et je n'ai jamais fait ça, et je remercie vraiment Éric d'avoir accepté. On a reporté cet entretien-là à la semaine prochaine. Je me rends compte qu'il y a tellement de choses à dire sur Ehlers-Danlos et sur la réalité que vit Véronique. Et en plus, et Véronique le disait de façon bien à propos, on ne sait pas comment elle va se sentir la semaine prochaine. Donc là, elle va bien, elle est de bonne humeur, elle est souriante. Alors nous, on est contents de l'avoir avec nous. Et on reporte donc l'entretien avec Éric pour pouvoir profiter des prochaines minutes et poursuivre. Parce que vous nous avez laissé, Véronique, assez curieux. Là. Bon, on a parlé du masque habituellement. Pourquoi aujourd'hui, coquetterie? Ou parce qu'il n'y a pas beaucoup de poussière dehors?
Parce que je savais que j'étais en entrevue, en fait.
Ouais.
Puis ça parle mieux aussi sans le masque.
Ouais.
Puis on n'est pas dans un endroit comme trop public, ce qui veut dire on n'est pas dans un métro, on n'est pas dans un hôpital. Mm-hmm. Moi, tous les endroits où est-ce qu'il y a beaucoup de monde, je peux pratiquement pas y aller.
Là, vous avez quand même pas mal de morceaux sur vous parce que, pour ceux qui se joignent à nous, entre autres, cette condition-là provoque une hyper-élasticité de tout ce qui est jonction, là, tout ce qui est poignet, genou, coude, épaule. Donc, vous devez avoir des orthèses pour limiter ce mouvement-là.
Oui, exactement. Donc, aujourd'hui, j'ai des orthèses pour les poignets. Donc, ça limite vraiment, ça restreint vraiment comme les mouvements au niveau des poignets. Pour ce qui est des doigts puis les jointures, j'ai toujours rien trouvé, mais c'est la même chose. En toutes les jointures, c'est comme s'il y avait un lousse. Puis à chaque fois que les doigts plient, ça fait mal. C'est comme si les deux petits os, ils allaient se toucher ou comme un claquement. Puis c'est comme ça un peu dans tout le corps. Aujourd'hui, j'ai un corset thoracique, TLSO, thoracico-lombaire. En tout cas, je me souviens plus du reste.
La généticienne ne peut pas l'aider.
Oh mon Dieu, ça, c'est pas dans mon domaine de génétique, là.
Donc, ça soutient ma colonne pour que je sois droite. Moi, j'ai une hyperlaxité beaucoup au niveau des bras puis des omoplates. Donc, c'est pour restreindre ça. J'ai aussi aujourd'hui... en plus de ça, j'ai un autre orthèse qui fait vraiment aller les épaules par en arrière pour garder les omoplates collées sur le corps. Je suis capable de faire la fameuse prière dans le dos très facilement. Je suis capable aussi de mettre les jambes plus qu'en arrière de la tête. Donc, pour continuer pour aujourd'hui, j'ai des genouillères qui empêchent la rotule de sortir. Et j'ai des pantalons de compression qui favorisent la circulation sanguine afin que j'aille mieux. Ça va mieux quand j'ai ça.
D'accord.
Ça me tient en même temps.
Ouais.
Puis j'ai aussi des orthèses au niveau des chevilles. Ça m'empêche de me fouler les pieds. Mmh. J'ai beaucoup de problèmes avec mes pieds. Je fais beaucoup de fourmillements. Mes bottes, c'est des bottes crow parce que si j'ai des bottes lourdes, ben c'est mon genou qui est porté à disloquer ou ma hanche, ça fait mal. Donc, pour aujourd'hui, c'est ce que je porte. J'ai également des orthèses. J'ai tout mon kit de nuit. Puis j'ai d'autres orthèses que j'ai pas mis aujourd'hui. J'ai un gros problème de peau, moi. Puis je suis pas capable de porter mes orthèses en tout temps. Donc, souvent, je change d'orthèses que je trouve qui sont plus confortables.
Mon Dieu, avec tout ça, là, puis tout ce que tu as décrit avant la pause, comment ça a été pour toi, comme les études, travailler, etc.?
Moi, ça a été quand même assez difficile. Oui, j'avais la fibromyalgie, personne n'y croyait. J'ai fait un premier bac en art visuel création. J'ai exposé pendant 2 ou 3 ans. Ensuite de ça, j'ai travaillé 3 ans dans un laboratoire d'orthodontie. Je fabriquais des moules. Mais bon, ça a tout le temps été dur, là, tu sais. Mais quand tu es habitué d'avoir mal, t'as mal. Moi, j'ai mal depuis ma naissance. Mmh.
Mais en même temps, il y a des journées, j'imagine, où on peut pas entrer. Ça prend des patrons qui vont accepter ou...
Oui, exactement. Okay. Mais moi, ma maladie a vraiment dégénéré depuis 2 ans.
Okay.
Depuis 2 ans, là, je suis en chute libre. Donc, suite à m'avoir fait enlever le poumon, c'est là que je suis complètement tombée. Asthme, paresthésie au niveau des bras, des jambes. Fait que là, depuis ce temps-là, on oublie ça, le travail.
Ah, okay.
Il n'y en a plus de travail. Puis juste avant d'avoir l'opération pour mon poumon, pour mon pneumothorax, j'avais repris un cours à l'université en travail social. Je l'avais fait instaurer un lit à l'UQAM pour pouvoir me reposer entre mes cours. Pensant encore souffrir de fibromyalgie. Donc, j'étais déjà à ce moment-là étant une personne vivant avec un handicap lourd. Depuis ce temps-là, au moins, les gens qui sont handicapés à l'UQAM, ils ont le droit d'avoir un lit. Parce que moi, j'allais dans une salle de repos dans la bibliothèque avec une couverte chauffante, puis j'allais me reposer là sur l'heure du dîner.
Ça fait longtemps que j'ai pas été déstabilisé comme ça durant une entrevue, Véronique. Êtes-vous en sacrement? Il me semble que on parle du poumon, on parle du foie, on parle de toujours être obligé de s'adapter.
Ouais.
Puis c'est pas de s'adapter en se disant en attendant. Il y a des personnes handicapées qui sont prises à la maison. Il y a, bon, comme dans mon cas, je verrai jamais. Mais ça se limite à ça. Je verrai pas moins, là. Ouais. Mais vous, là, ça continue à... Vous disiez, vous avez votre kit de nuit.
Ouais.
Moi, je serais en sacrement.
Sais-tu, je pense que j'ai dépassé cette période-là. Je vois ça un peu plus comme si j'étais une missionnaire. C'est, moi, quand que j'ai su que j'étais atteinte d'une maladie rare, j'ai pleuré. Mais quand que j'ai su que j'étais unique au monde, je ne l'ai pas trouvé drôle. Ça, être unique, c'est la pire des choses. Mm-hmm. Tu sais, quand on dit que tu es unique, c'est beau. Ouais. Non, être unique...
Il n'y a personne qui travaille pour vous aider, là, dans le sens... Il n'y a pas de marché, il n'y a pas de pour trouver une...
Maladie rare, c'est déjà difficile, ouais. Mais être unique, c'est encore plus difficile. Je suis née, moi, avec des douleurs chroniques. Donc, comme je dis, je vois ça comme une mission. J'ai eu plusieurs pertes. Je devais mourir. J'avais 60 % des chances de mourir sur la table quand je me suis fait enlever.
Mais quelle est la mission?
Ben, ma mission, je pense que c'est ça. C'est d'être unique, puis de me rendre jusqu'au bout, puis de me battre jusqu'au bout.
Il y a où le plaisir là-dedans, Véronique?
Le plaisir, ben, c'est ma fille. C'est elle. C'est le peu de gens qui... sont autour de moi, qui m'aiment pour vrai. J'ai rencontré des gens authentiques. J'en ai perdu plusieurs autres avant. J'en perds encore, évidemment. Mais on dirait que le fait d'avoir peut-être, justement, avoir manqué mourir plusieurs fois dans ma vie ou d'être atteint comme ça, je suis émerveillée par des petites choses. Je ne suis pas quelqu'un qui va se fâcher après tout. Tu sais, les gens se fâchent dans le trafic.
Ouais.
Moi, là, je comprends même pas pourquoi ils se fâchent. Là, tu sais, c'est comme... Il y a tellement des choses pires que ça dans la vie. Fait que toutes les petites choses, les petites beautés, je les prends puis je les vis comme à 100 000 à l'heure. Je ris puis je n'arrêterai pas de rire. Je suis très résiliente, en fait.
Vous parliez de beauté. Ouais. Parlez-moi de beauté sans nécessairement... Tu sais, lunettes roses là, que souvent... Ben, puis peut-être que vraiment vous le ressentez. Là, mais tu sais, j'entends des fois « Ah, la beauté, c'est dans les yeux du cœur » et blablabla. Mmh. Alors que ça nous fait de quoi quand même d'avoir... 18 orthèses sur nous, là.
Oui. Moi, je dirais que c'est frustrant, surtout que, bon, j'avais un TDAH, j'ai tout le temps été une fille hyper active, je faisais plein de sports, puis de vivre ça, de devoir devenir comme dans un carcan, c'est très difficile. J'ai fait, comme je disais tout à l'heure à une personne, j'ai fait le cours d'être atteinte de maladie chronique, de douleur chronique. C'est bien, j'ai fait ce cours-là. Je vis avec des douleurs chroniques depuis ma naissance. Moi, le cours que j'aurais aimé avoir, c'est un cours apprendre comment accepter de devenir handicapé du jour au lendemain, comment vivre dans un corps de 90 ans quand tu en as 33, de devoir me coucher vers 6 heures. Ça, c'est des frustrations. J'ai mis un X sur le fait d'être en couple. Ça a été un deuil qui a été aussi assez lourd.
Je peux poser la question, pourquoi un X?
Malheureusement, il y a peu de gens qui sont assez sensibles pour s'investir avec des personnes malades. Ça les remet eux-mêmes en question. Il y a certaines personnes même qui me disent qu'ils ne me comptent pas leurs problèmes parce que j'en ai trop. Mais moi, j'ai envie de me sentir humaine. Puis moi, j'aide les autres. Je suis une personne qui aide les autres. Je voulais être travailleuse sociale. Quand j'étais jeune, je voulais faire de l'aide humanitaire. Ça me fait vivre d'aider les autres. Si j'aide pas personne, on dirait que je suis...
Je comprends.
On dirait que j'existe pas, tu sais.
Gail, c'est commun, ça? Est-ce que il y a plusieurs personnes qui, justement, parce qu'elles vivent, que ce soit homme ou femme... soit qu'ils se refusent à l'amour parce qu'ils se disent « je ne veux pas être un fardeau » ou encore qu'ils mettent une croix là-dessus?
Ou tout simplement, ça ne marche pas. T'sais, même si elles veulent, c'est difficile des fois de trouver un conjoint ou une conjointe.
Ça arrive
puis,
à beaucoup de gens.
Donc, pour des maladies comme ça. Puis c'est merveilleux l'attitude qu'elle a, Véronique, parce que ce qu'elle vit, c'est presque l'entièreté des personnes avec ce syndrome-là qui vivent tout ça. c'est-à-dire des années sans diagnostic, à errer dans le système médical et où on donne des faux diagnostics. Fibromyalgie, ce que ça veut dire, c'est les douleurs, là. Mais il y a quelque chose qui cause ces douleurs-là. Ensuite, la prise en charge, c'est très difficile. Il n'y a pas de protocole uniforme au Québec. Et on ne profite pas des expériences d'ailleurs. Même des fois, quand ils ont un diagnostic, même là, on ne croit pas trop tous les symptômes qu'ils ont. Puis en fait, ça touche plus de femmes. Ça peut être une maladie autant pour les garçons, filles, hommes, femmes, mais ça touche plus les femmes à cause de facteurs hormonaux. Puis les femmes se font souvent dire, comme pour d'autres maladies, « Ah, c'est dans votre tête, vous plaignez trop. Ouais. » et ils se font même envoyer des fois en psychologie, psychiatrie. Fait que c'est tout ça, c'est tellement difficile que pour la vie de famille, pour le travail, pour la vie de couple, tout est difficile.
Ehlers Danlos, est-ce que ça a été une bonne nouvelle? Parce qu'enfin, on le sait. Tu sais, quand on sait qu'on a quelque chose, mais qu'on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, ou au contraire, parce que c'était tellement particulier, c'est pas ce diagnostic-là que vous souhaitiez avoir?
Je dirais qu'en fait, même si je sais que j'ai le syndrome d'Ehlers-Danlos, comme on ne sait pas le type, ça ne change pas grand-chose. Puis, comme Gil dit, les services au Québec, le syndrome est mal connu. Moi, là, ça fait 2 ans que je change de spécialiste. J'en retrouve d'autres. Ça fait 2 ans que je sais de qu'est-ce que j'ai de besoin comme appareils médicaux, que je sais de tous mes besoins, mais rendu là, il y a encore plein de restrictions. Tantôt, je parlais du fauteuil roulant électrique que je devais avoir. Finalement, je remplis pas les critères. Fait que là, je retombe au quadriporteur. Le quadriporteur, je ne remplis pas toujours les critères. Parce que l'été, je peux marcher 200 mètres ou 300 mètres. Mais ça, c'est juste juin puis juillet. Fait que là, on essaie de me faire prendre une marchette. Je suis pas capable de la tenir. Les doigts me disloquent. Tu sais, je fais de l'arthrose, moi, en plus, partout, même au niveau du visage. Fait que là, j'essaie de me battre un peu pour être capable d'avoir au moins un quadriporteur. Mais sinon, je ne sais pas ce que je vais faire.
Ouais. Vous me l'avez peut-être dit, mais quel âge a votre fille?
Elle va avoir 8 ans le 29 novembre.
OK. C'était pas possible de la prendre.
Quand elle était jeune, elle était en sous-poids. Ce qui veut dire qu'à 6 mois, elle pesait 6 livres. À 6 mois, elle portait du 6 mois. À 12 mois, à portée du 12 mois. Elle était plus petite que la normale. À l'âge de 2 ans, ils lui ont fait des tests génétiques au niveau de la maladie de Turner parce qu'ils trouvaient que sa morphologie était différente. Mais non, à partir de 20 livres, là, c'était déjà beaucoup trop. Je l'ai faite parce que j'étais maman puis je pensais qu'il fallait que je le fasse. Mais, tu sais, j'ai jamais pu comme courir avec elle. J'ai jamais pu la prendre. J'ai jamais pu... nager avec elle, ça coupe plein de choses, là, tu sais. Puis c'est de pouvoir lui expliquer aussi. À 2 ans et demi, moi, ma fille me faisait des retournements dans mon lit parce que j'étais pas capable de me lever. Elle m'amenait ma canne, puis elle m'amenait ma poubelle pour... lorsque je régurgitais.
Ouais. C'est pas normal, mais ça fonctionnait.
Ça fonctionnait.
Ouais. Comme moi non plus, j'ai jamais vu mon fils faire du vélo, j'ai jamais pu faire du vélo avec, je l'ai pas vu nager alors que c'est tellement, tu sais...
Exact.
Je comprends en grande partie là, ce que vous racontez avec le lien, le filial de l'enfant.
Mm-hmm.
Et là, vous pensez qu'elle... Parce que c'est une chance sur deux que Ehlers-Danlos se transmette.
Oui.
Vous pensez que ce serait peut-être ça, sa difficulté?
Oui, bien, j'ai tout relevé les dossiers qu'elle avait à Sainte-Justine. Puis elle a l'artère pulmonaire du cœur plus grosse. Elle a déjà eu un faux problème de cœur aussi vers l'âge de 4 ans. Donc, ils lui ont fait une échographie. Elle a eu une fracture du crâne aussi à l'âge de 9 mois qui reste inexpliquée. J'étais pas là. Je ne veux pas nécessairement décrire les circonstances.
Mm-hmm. Mais c'est... OK, donc elle se serait... Ses os étaient plus fragiles, puis...
Bien, la fracture du crâne mesurait 10 cm.
Okay,
donc,
si elle
a des calcifications, comme moi, ça pourrait expliquer pourquoi elle est aussi grande.
Ouais.
Ma fille, les ongles dédoubent. Elle a les dents toutes croches dans la bouche. Elle vient de se faire enlever 4 dents. À l'âge de 5 ans, elle avait 10 plombages. Elle en a perdu 4 aussi. Puis elle s'en est refaite faire 8 cette année, à l'âge de 7 ans. Donc, elle n'a pas d'émail du tout. Elle n'a pas de calcium. Elle a le visage blanc, 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 blanc. On voit ses veines. Elle a les pieds plats. Les genoux commencent à rentrer par en dedans. Okay. Puis quand elle était jeune, naissante, à ce moment-là, quand elle a fait des otites à répétition, des bronchites à répétition, puis elle devait prendre une pompe pour l'asthme à ce moment-là.
Ses plaisirs à elle proviennent de...
Ses amis à l'école, mes chiens à la maison. J'ai des chiens à la maison. Ça, c'est tout son bonheur. J'ai des bonnes personnes autour de moi. Donc, elle a réussi à trouver son bonheur. C'est une petite fille formidable, très affectueuse. Puis on est très proches, elle et moi. On est vraiment comme...
Ouais.
Ouais.
À vous des questions, Gaëlle, parce que je pourrais y parler pendant 10 jours sans arrêter, mais...
Ben, je pense qu'elle a pas mal tout décrit, mais je pense que la connaissance, ces derniers jours, je pense qu'elle a beaucoup d'anxiété aussi par rapport à sa fille, là, puis son futur. Ouais. Puis c'est ça, le fardeau là, des maladies héréditaires. Mm-hmm. Hein, puis,
moi, ce qui me frappe, Véronique, c'est, puis c'est vraiment pas une critique, mais un constat. Quand on s'est vu, quand on a commencé à jaser, vous étiez pétillant. Puis là, quand j'ai commencé à être fatigant, c'est vrai qu'on a commencé à sentir le poids. Mm-hmm. Et je me demandais, puis c'est pour ça que je tendais ma main, parce que j'avais envie de la serrer fort, fort la vôtre, mais qu'est-ce qui... Puis j'hésite, parce que je sais jamais comment serrer, puis tout ça. Est-ce qu'on peut vous faire des câlins? Comment vous recevez l'affection des gens?
C'est
vous?
Difficile.
Ouais, OK.
Puis ça non plus, ils comprennent pas.
Ben, je comprends, je vous enverrai un câlin par courriel.
Mais surtout quand la personne serre fort, puis qu'elle est plus grande que moi. Mm-hmm. Parce qu'au niveau du cou, c'est l'enfer.
Ouais.
Tu sais, moi, là, ma douleur, OK, j'ai des troubles au niveau de la peau. La peau me brûle. Quand je pleure, j'ai l'impression que c'est du feu qui coule sur mes joues. Au niveau des os... Quand il fait froid, j'ai l'impression que mes os là, sont toutes cassées.
Okay.
Au niveau des tendons, ils sont raides, raides, raides.
Le climat idéal pour vous, là, où si vous aviez la capacité de déménager sur mm-hmm. Terre, qu'est-ce qui est le climat idéal?
La Floride.
OK. C'est humide, par exemple.
Oui, mais semble-t-il que pour l'arthrose, au moins, c'est bien.
Ça vous tente-tu?
J'aimerais bien ça.
Tu sais, dans le sens, il me semble que... Seigneur, il faut se faciliter la vie quand c'est possible. Combien, le pourcentage de la Véronique du début de l'entrevue mm-hmm. versus la Véronique qui est anxieuse, qui est troublée, qui est obligée de se battre, qui manque d'énergie, et ce n'est pas une critique, j'essaie mm-hmm. de vous connaître.
La question est?
Quel est le pourcentage de la Véronique que j'ai vue au début de l'entrevue dans votre journée?
Aujourd'hui, ça va quand même relativement bien, mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis levée beaucoup plus tard.
OK.
J'ai fait mes traitements respiratoires juste avant de venir. Je me suis préparée vraiment pour aujourd'hui.
OK. Fait que j'ai du trouble dans votre vie, là. Mais du trouble que vous avez accepté, mais c'est chaque activité... demande une réflexion, une préparation.
Oui, oui, oui. Oui. Disons que, tu sais, moi, je peux pas vraiment découcher puis aller chez quelqu'un. Premièrement, j'ai trop de stock à apporter.
J'espère que vous avez une voiture.
C'est les lavilleurs des ménages, okay. Tu sais, c'est toujours, toujours. Puis si je fais la gaffe de passer une journée chez quelqu'un sans me reposer, ce qui veut dire en étant debout ou assis, sans me reposer, étant couché... Je tombe avec des migraines, des fatigues, puis ça me prend 3 jours à m'en remettre.
Vous avez accès au transport adapté?
Je suis en attente.
Mais voyons donc.
C'est très long.
Tout est compliqué pour vous.
Oui,
Pas de fauteuil électrique, pas de quadriporteur.
Oui.
Vous savez, si Véronique puis les autres personnes avec syndrome-là, il y avait plutôt un diagnostic de sclérose en plaques ou d'une maladie neuromusculaire plus connue comme une dystrophie musculaire ou une ataxie, il y aurait les services. Alors là, nous, on la voit avec tous ses orthèses, on voit toutes ses limitations, ses difficultés pour marcher, puis elle ne peut pas facilement obtenir. Toutes les personnes avec ce syndrome-là se battent pour ces services-là. Mm. Donc, c'est ça qu'on veut essayer de changer.
Oui. Où est le blocage, Gail? C'est l'argent et on se sert de ça pour retarder les... Parce que ça coûte trop cher?
Non, c'est le lot des maladies rares, du fait que c'est comme ils sont mal connus, c'est les moins fréquentes là, dans les listes de maladies que les professionnels de la santé, que les travailleuses sociales, que les fonctionnaires, mettons, à la Régie des rentes ou connaissent. Bien là, ça devient plus compliqué. On le constate, ça. Puis ce qui est étonnant avec le syndrome Ehlers-Danlos, c'est que ça, c'est un syndrome qui a été caractérisé en 1906. C'est une maladie, c'est pas la moins mal connue, mais elle est méconnue, elle est mal comprise encore en 2014. Fait que ça rend les études de dossiers difficiles, c'est comme si... Puis les gens... Vraiment, il y a le préjugé que c'est une maladie bénigne, là, qu'ils ont juste les articulations souples, puis ils ont juste à aller travailler au cirque.
Au cirque, ben oui.
C'est ça.
Ben oui.
Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une maladie handicapante. Mais c'est pas reconnu comme tel beaucoup.
Qu'est-ce que le Centre d'information et de ressources en maladies rares a pu faire pour Véronique?
De ça, je suis gênée parce que, comme je dis, c'est la maladie pour laquelle les gens nous appellent le plus. Fait qu'en général, pour une maladie, hein, on fait toutes nos recherches pour l'information. On fait une fiche de maladie avec toute l'information officielle à jour, projet de recherche, essais cliniques, médicaments, les associations, les cliniques spécialisées. Dans le cas du syndrome Ehlers-Danlos, malheureusement, puis c'est ça la constatation, il n'y a presque rien au Québec. Au Canada, là, on vient de commencer l'an passé à mettre sur pied un groupe de médecins professionnels de la santé et patients où on veut essayer d'avoir un guide de pratique pour cette maladie-là. On n'a même pas ça. Mais donc, c'est très, très difficile. Fait que la référence, c'est Dr Amonet, dont Véronique a parlé, qui est en France, qui a un centre de référence à cette maladie-là. Fait que moi, je pense que ça fait à peu près 3 ans que j'essaie, mais comme on s'occupe de beaucoup de maladies rares, ça avance à petits pas, mais à faire avancer les choses au Québec. Là,
mais normalement, pour une maladie, le centre, ce que vous dites, c'est qu'il va tenter de documenter...
Il va fournir toute l'information officielle à jour à la personne, puis des fois, les personnes, ils nous appellent pour des ressources. Fait qu'on les réfère à des ressources gouvernementales, communautaires, etc., les services, on peut les aider des fois avec les services, mais on n'a pas assez de ressources là, pour aller au bout de tous les dossiers, mais on les réfère. L'autre chose qu'on fait, c'est jumeler les gens, c'est-à-dire des maladies. Il y en a beaucoup qui veulent trouver une autre personne au Québec ou au Canada avec leur maladie. Ça, on le fait. Puis d'ailleurs, on l'a un peu fait là, pour mettre les personnes avec le syndrome Ehlers-Danlos ensemble. Là, ils se sont trouvés sur une page Facebook. Nous, on réfère les gens-là. Et puis, l'autre chose qu'on fait, c'est répertorier toutes les ressources en maladies rares au Québec. Ça, c'est un projet qu'on a en collaboration avec une base de données internationale qui s'appelle Orphanet, à laquelle 40 pays participent. Puis ensuite, l'autre chose, c'est la recherche. On essaye de jumeler des chercheurs avec des patients de maladies. Puis d'ailleurs, pour le syndrome Ehlers-Danlos, on a initié, nous, avec des chercheurs à Sainte-Justine, à McGill et au CHUM, une étude pour trouver les fameux gènes qu'on ne trouve pas pour le syndrome. Okay. Ouais.
Mais y a-t-il des chercheurs qui s'y intéressent ici? C'est beau de dire, OK, on essaie, mais...
Pour le syndrome Ehlers-Danlos, là, on a trouvé pour ce projet-là en génétique, on est bon en génétique au Québec. Pour ce qui est des autres aspects, là, j'ai commencé à rencontrer d'autres spécialités en médecine, les rhumatologues, cardiologues, médecine interne. Fait qu'on va essayer de bâtir quelque chose. Ouais. Mais sinon, c'est en Europe qu'ils sont les plus avancés.
Et votre journée éducative vise à informer qui?
Bon, notre journée éducative, le samedi 22 novembre, en fait, c'est une journée sur les maladies rares. Fait que c'est pas, on ne parle pas de maladies rares spécifiques. Ce qu'on veut faire, c'est parler des enjeux des maladies rares. Puis, parce qu'au Québec, là, on n'a même pas une définition, pas une reconnaissance, pas de politique sur les maladies rares. Puis, par contre, en Europe et aux États-Unis, c'est avancé. Alors, on veut montrer ce qui se fait ailleurs, puis en se disant que nous, on peut apprendre de ces expériences-là puis faire la même chose ici. Par exemple, il y a 30 à 40 pays qui sont en train de faire leur plan national maladies rares où ils l'ont déjà adopté. En France, ils sont rendus à leur troisième. Fait que nous, on n'a rien de ça. Mmh. On voudrait plus d'argent dans la recherche, on voudrait plus d'accès aux médicaments. Fait qu'on veut, c'est la journée où on veut que les gens apprennent cette situation-là, qu'ils la comprennent pour qu'on puisse mieux avancer puis travailler avec les gens dans le système de santé, dans le milieu médical pour faire avancer ça.
Les médias vous donnent-ils de la place?
Les médias?
Oui.
Moi, je dirais que de plus en plus, okay, ils s'y intéressent. Et de plus en plus, c'est plus facile de les faire intéresser à des maladies spécifiques. Mais ce qu'on aimerait, c'est qu'ils s'intéressent à la problématique, oui, générale, oui, aussi. Oui.
Je suis content qu'il reste encore deux semaines à passer ensemble. Oui, là, on est édition du 14, donc 21-28.
Oui. Il nous en reste deux.
Mais c'est assez troublant. Véronique, merci beaucoup d'avoir travaillé, avoir organisé votre journée pour pouvoir venir ici.
Merci, vous remercie à vous surtout.
Merci à Jean-Sébastien, Rémi, Lynn à la recherche, Claudia aux réseaux sociaux. Ciao tout le monde.
Au revoir.
Au revoir.